Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 11 mars 1992.
Petite question. Peut-on dire qu'en l'absence de toute autorité, l'homme et l'enfant peut atteindre sa finalité? Et si présence de l'autorité, mais sans coopération? Bon, il est bien évident que l'enfant a besoin d'autorité. C'est sûr. Dans un jugement de sagesse, on verrait que Dieu a voulu que l'homme naisse dans cette petitesse pour être dépendant de ses parents. Et pour comprendre tout de suite ce qu'est l'autorité paternelle et maternelle. Donc, il y a un fondement naturel à l'autorité. Voyez bien. Ceci indépendamment du point de vue religieux. Est-ce que la famille repose sur l'amour d'amitié? Et que la famille peut exister, se structurer par l'amour d'amitié et la fécondité, source, fruit de cet amour d'amitié. Oui, alors, ceci, dans l'analyse philosophique, faisons attention, hein, je précise, dans l'analyse philosophique, au point de vue concret, pas le pratico-pratique, mais c'est ça que Maritain comprenait, que j'aime mieux dire l'analyse philosophique, puis le point de vue de notre vie concrète, tout simplement. Il est évident que sans l'aspect religieux, très très vite, la famille tend à disparaître. Je crois, concrètement. Parce que il n'y a pas de neutralité. Alors c'est tout de suite une autre vision étatique. On fait des enfants pour Hitler. Là, c'était dit d'une façon nette. On fait des enfants pour Hitler. Quand on fait des enfants pour Hitler, c'est la destruction de la famille. Parce qu'on ne fait pas des enfants pour Hitler. On ne fait pas des enfants pour un pays, pour une nation, pour un État. C'est les enfants des parents. On ne peut pas arracher les enfants aux parents pour dire c'est l'État qui s'en occupe. La nation doit compléter l'éducation des parents, mais c'est toujours les parents qui ont l'autorité première. Et ça, l'État ne peut pas supprimer ça. Ah, vous voyez, c'est pour ça que c'est très délicat. Il faut bien comprendre. On est dans l'ordre pratique quand on est dans l'éthique. Mais la philosophie de l'éthique n'est pas le point de vue immédiatement pratique. Il y a une analyse. Donc, au plan philosophique, je peux faire des distinctions qui, dans l'ordre pratique, comprenons bien, ne peuvent pas se réaliser comme ça. Je crois que ça fait comprendre comment on peut dire que l'éthique ne peut exister vraiment que si elle est religieuse. Je comprends très bien. Et cependant, on doit distinguer dans l'ordre de l'analyse philosophique. C'est toujours l'analyse philosophique. Un premier moment d'une éthique qui repose sur l'amour d'amitié. Et concrètement, une éthique qui repose sur l'amour d'amitié sera très vite si elle n'est pas fondée sur un aspect religieux, c'est l'État qui en prendra la place. Vous savez, l'État a toujours des ambitions de remplacer Dieu. L'individu, l'homme, il est encore bien plus. Il veut avoir toute puissance. Un monarque a toujours envie d'être Dieu. Zeus. Petite Zeus, mais Zeus. C'est très très curieux, ça. Alors ça, c'est le tout. Ce n'est plus la personne, c'est le tout qui remplace la personne. Je crois que la personne est religieuse et le tout n'est pas religieux. Ah, ça serait intéressant pour une philosophie de regarder. Parce que dans la personne humaine, il y a toujours quelque chose de religieux. Fondamentalement, l'homme est un animal religieux. Et vous n'arriverez jamais à supprimer ça. Jamais. Vous pouvez le refouler, le refouler, le refouler. Au moment de la mort, ça revient. C'est très, très glorieux. Les refoulements tiennent dans le cas ordinaire, mais en face de la mort. Et puis à la grâce de Dieu. Mais c'est la secousse, hein. Tremblement de terre, la mort. De la mort. Alors, il y a cela, mais le tout, l'État, lui, il est idéologique. Quand il n'est pas réaliste, quand un État ne sait plus ce que c'est que sa finalité, il se donne à lui-même sa propre finalité. Il devient le tout. Il devient le tout. Et donc, il a tout pouvoir. Alors, on voit très bien, concrètement, c'est où une morale humaine qui va se prolonger, s'enraciner dans une morale, dans une éthique religieuse, ou dans une éthique de l'État qui remplace Dieu. L'homme a toujours besoin de se dévouer. Il se dévoue à Dieu et par Dieu au prochain, ou il se dévoue à l'État. Et l'État, à ce moment-là, va prendre une liturgie. C'est très curieux. Un État qui se veut tout à sa liturgie. Hitler avait créé une liturgie. Et tout État se crée une liturgie. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. L'autorité, donc, a un fondement naturel dans la paternité et dans la maternité. Ça, je crois qu'on doit le voir, un fondement naturel. L'autorité va s'étendre au-delà de la paternité et de la maternité, dans le point de vue du travail. Dans le point de vue du travail. Dans le travail, il y a une coopération. Et toute coopération digne de ce mot, de cette réalité, implique une autorité. Mais c'est pas là où elle est première. Elle est première dans le point de vue de la paternité. C'est cette petite remarque d'Aristote qui est très juste. Que l'autorité est génétiquement... Aristote dit pas ça, mais je l'ajoute. Est premièrement paternelle. Dans l'éducation. Mais pour l'éducation. Dans la famille. Parce que l'enfant naît dans un état de telle dépendance qu'il ne peut grandir que dans une coopération au point de départ instinctive et progressivement consciente. D'où l'obéissance à l'autorité des parents. Cette autorité s'étend dans le travail, où elle est déjà beaucoup plus délicate. Quand le travail, quand l'économie était liée à la famille, comme dans la vision d'Aristote, alors c'est l'autorité paternelle qui prend une nouvelle dimension. Et Aristote, avec beaucoup de précision, montre que cette autorité à l'égard du travail n'est pas la même que l'autorité paternelle. On n'est pas père du travail. Ce qui explique comment, vous voyez, le paternalisme a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Parce qu'on n'est pas père du travail. On est père des enfants. Et on les éduque. Tandis qu'on n'est pas père. Mais facilement, on est dans l'autorité paternelle au domaine. À tout ce que le grand-père a inventé. Allez. En Suisse, c'est les fameuses cigarettes. C'était le grand-père qui a inventé ça. Alors, c'est bien paternel. Un capitalisme familial. C'est déjà moins grave qu'un capitalisme anonyme. Mais c'est ça. Alors, il y a une espèce de paternalisme. Le nom a inventé les cigarettes. Alors ça fait quand même quelque chose. Et alors c'est lié. On verrait d'autres exemples. Hein. C'est intéressant du reste de voir ça. Et Aristote, avec beaucoup de finesse, montre que l'autorité du père à l'égard des enfants n'est pas la même que l'autorité du maître, du patron, à l'égard des ouvriers, à l'égard des esclaves. Ce n'est pas la même autorité. C'est une autre autorité. Donc ne prolongeons pas l'autorité à l'égard du travail a un caractère beaucoup moins profond. C'est en vue de cette coopération dans le travail qu'il faut qu'il y en ait un qui commande. Et donc là, c'est la compétence. Le fondement de l'autorité est la compétence. Si vous n'avez pas de compétences, mais vous ne pouvez pas diriger le travail. Vous voyez, l'autorité du parrain dans le travail, c'est coopérer. Si le parrain est moins avancé que celui qui est parrainé, il va dire ça au père maître. Écoutez, hein, vraiment, c'est pas très fort, hein. Vous pouvez même donner un autre parrain, parce que. Alors, avec beaucoup de délicatesse, on prend des moyens, on dit, mais, il faut mieux, en effet, les caractères ne s'entendent pas très bien. Mais, en réalité, c'est la compétence. Et on a le devoir de dire, mais non, ça n'avance pas beaucoup. Parce que quand je pose une question, la réponse, je pourrais la dire. Alors, c'est la compétence, l'autorité disparaît, vous voyez. L'autorité dans l'enseignement et dans le travail. L'enseignement est un travail. C'est la compétence. Ce n'est pas la richesse. J'ai le droit de commander parce que j'ai le patrimoine. Et ce qui était très beau, il y avait un interview de Michelin avec quelqu'un qui venait demander. Ça, c'est très bien, le nom Michelin, est-ce qu'il doit rester tout le temps ? Alors, il a simplement répondu, s'il n'y a personne de mes enfants, ou de mes cousins, ou de mes neveux, qui ont la compétence, je le donnerai à celui qui a la compétence. C'est très juste. Quand il s'agit, justement, de l'autorité dans le travail. Oui, ce n'est pas parce qu'on est fils du patron qu'on est intelligent. Parce que le patron est intelligent, mais ses fils ne sont pas toujours intelligents. Pas toujours. C'est pas héréditaire. Évidemment, il a des chances d'être plus intelligent qu'un autre parce qu'il a plus reçu qu'un autre. Mais pas toujours. Parce qu'il peut y avoir un grand-oncle qui était un imbécile. Alors, s'il y avait un grand-oncle qui était un imbécile, ça peut se retrouver, ça. L'atavisme, on le sait. Mais c'est très très important cette distinction que fait Aristote, et elle est très juste. L'autorité paternelle a un fondement naturel sur la par la point de vue de la procréation. Et le père doit être suffisamment intelligent pour comprendre que si au point de vue éducation, il a besoin d'une complémentarité, l'épouse. En premier lieu, l'épouse. La mère. Il se repose là-dessus. Et si de fait, les deux, ils doivent être suffisamment intelligents pour demander quelqu'un qui sera parrain, tuteur, pour éduquer et aller jusqu'au bout. Voyez, des quantités de difficultés proviennent de là, voyez. C'est que l'autorité n'a pas assez d'intelligence pour respecter l'altérité de celui sur qui il exerce autorité, et n'a pas assez d'intelligence pour toujours être finalisé. L'autorité est un service en vue du bien, de la croissance de celui qui reçoit cette autorité, qui coopère à cette autorité. Dans toute obéissance, il y a une coopération entre l'autorité et celui qui subit cette autorité. Coopération parce qu'il y a même finalité. Donc ceci montre bien que l'autorité est fondée en nature, dans la nature humaine, dans la famille. C'est dans la famille qu'on voit en premier lieu ce que l'obéissance. Ça c'est sûr, autorité et obéissance. Elle est limitée, cette autorité. Elle est ordonnée à l'éducation. Et quand celui qui est éduqué est capable de se diriger lui-même, c'est-à-dire qu'il a une prudence suffisante, l'autorité paternelle n'est plus qu'un conseil. C'est pour ça que pour l'orientation de la vie, ce n'est pas le père qui est autorité, c'est chacun, chaque personne humaine, avec le conseil du père et de la mère. Très bien, mais un conseil, pas plus. L'autorité dans le travail est limitée à la compétence. Et celui qui exerce l'autorité doit être suffisamment lucide pour dire « je peux aller jusque-là, mais après, non. » Mais dans le parrainage, là, vous faites, l'expérience d'une autorité au niveau du travail. Alors évidemment, dans la vie religieuse, il y a un autre élément. Puisque c'est une vie religieuse chrétienne, et le Père Maître, les supérieurs, ont une autorité mandatée par Dieu, par l'Église. Donc c'est plus uniquement la compétence. La compétence aide, mais l'autorité ne repose pas sur la compétence. Elle repose sur un mandat. Alors ça, c'est le propre de l'autorité chrétienne, qui est quelque chose de très particulier. Oui, parce que c'est vrai, l'Église implique un ordre hiérarchique qui n'est pas humain. Un ordre hiérarchique qui repose sur le Christ. Et Jésus respecte le premier Adam. Il n'est pas le nouvel Adam qui supprime le premier Adam. Il est le nouvel Adam donnant une nouvelle hiérarchie d'autorité qui ne supprime pas le premier Adam. La grâce ne supprime pas la nature. Au plan religieux, donc dans l'éthique religieuse, l'autorité va avoir un nouveau développement. Ce qui me semble intéressant à noter ici. Autrement dit, il y a une nouvelle extension de l'autorité. Alors, sur quoi porte vu simplement l'autorité du père. À l'égard des enfants, l'autorité du maître. À l'égard de l'esclave, à l'égard de celui qui coopère dans le travail. Au moine religieux va intervenir une nouvelle autorité. Dans le domaine religieux. Une autorité de médiation. Qui est très délicate, mais qui existe. Dans toutes les religions, on voit un rôle de médiateur.
Ne sera parfaitement famille
félicitations. Dans la famille, grâce au point de vue religieux, une explicitation et un enracinement. Il y a quelque chose de sacré dans la famille. L'homme ne peut pas modifier la famille comme il le veut. Elle est enracinée dans l'autorité du Créateur. Et elle s'enracine dans l'autorité du Créateur. Il y a donc bien dans l'éthique religieuse tout un aspect nouveau de la famille qu'il faut développer par le point de vue de la procréation et par le fait même dans l'autorité du père et de la mère. Il y a quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré qui reste naturel. Qui est naturel et sacré. Parce que le naturel, l'éthique religieuse montre que le naturel, pour l'homme, atteint le sacré. Le sacré n'est pas extérieur à la nature humaine. La nature humaine a quelque chose de sacré. Et donc, la famille va impliquer quelque chose qui montre son indépendance à l'égard de l'État. L'État n'est pas sacré. La politique n'est pas sacrée. Tandis que la famille a quelque chose de sacré. Je crois ceci très important pour bien montrer comment un État qui se veut tout et donc qui veut remplacer Dieu ne le remplacera jamais. Un État qui se veut tout va essayer de détruire cet aspect sacré de la famille. C'est très curieux, c'est que la bête noire de tout État qui se veut totalitaire, c'est toujours la famille. Puisque c'est là où il touche quelque chose qui lui échappe. C'est la procréation, c'est l'amour d'amitié des parents, de l'époux et de l'épouse. C'est la finalité propre de l'homme. Voilà les trois grands aspects qui échappent à l'État qui se veut tout et qui ne respecte pas ce caractère sacré. C'est ajouter tout de suite, pour l'individu, pour la personne, dans son individuation, l'adoration. Donc le culte. L'État doit respecter cela. Et ceci, c'est farouche, vous voyez. Je crois que dès qu'on prend conscience de ça, on ne peut pas accepter que l'État prenne possession de cela. Parce que c'est du sacré. C'est voulu par Dieu. Directement et immédiatement. Et un État qui ne respecte pas nécessairement se condamne lui-même. Et il disparaîtra tôt ou tard. Parce qu'il lutte contre Dieu. Il lutte contre quelque chose de sacré. Alors ça, en éthique religieuse, on doit pouvoir le montrer. Donc l'éthique humaine parfaite, toi qui implique le point de vue religieux, doit manifester cette autonomie fondamentale et radicale de la famille par rapport à l'État. Et qui se manifeste dans l'éducation. Et le lieu de combat sera toujours l'éducation. Parce que l'État voudra mettre la main sur la païdéia, sur l'éducation et l'instruction. Et la famille, au plan signature. Donc ce sera au nom de ce qu'il y a de sacré dans la famille que le chrétien luttera pour l'indépendance de la famille, pour la liberté de l'éducation. L'État ne peut pas avoir des droits absolus sur l'éducation. Et remplacer la famille à ce moment-là. Oui, ce n'est pas au nom du christianisme que je lutte. C'est au nom de l'aspect religieux. C'est très important de se rappeler ça. Peut-être qu'on ne distingue pas assez. Parce qu'à ce moment-là, on devrait, vous voyez, la croisade de tous ceux qui respectent le Créateur, de tous ceux qui comprennent que l'âme est créée par Dieu. Il faudrait que tout cela s'unisse contre un État qui se veut total. Parce que là, on respecte le point de vue de la famille dans son enracinement religieux. Le point de vue chrétien va simplement expliciter d'une manière plus nette encore. Mais l'éducation est premièrement religieuse, fondamentalement religieuse. Il est évident que le point de vue chrétien va ajouter dans l'éducation le point de vue de la foi, le point de vue des vertus dialogales, qui respecte le point de vue religieux et qui ajoute quelque chose de nouveau, qui ajoute une finalité nouvelle. Donc ceci, c'est pour répondre à cette question. Donc c'est la question posée. Je continue. Et ça continue ce que nous disions. C'est que ceci me permet de préciser que l'autorité a un fondement naturel grâce à la procréation. Donc, que l'éducation où s'exerce l'autorité en premier lieu est fondamentalement humaine. Et que le point de vue religieux précise et approfondit cette autorité. C'est pour cela que je peux ajouter tout de suite que l'éthique religieuse met en lumière l'exigence de l'obéissance. Et l'obéissance lieu dans la famille, dans une éthique humaine. Dans l'éthique humaine, l'obéissance apparaît à propos de l'éducation. C'est pas le niveau politique, c'est la famille comme telle. Alors, Aristote n'a pas assez distingué, ça je crois qu'on peut le dire, la famille de la politique. Et nous sommes aujourd'hui obligés de distinguer plus l'éthique humaine qui implique la famille. Je dois me battre pour sauvegarder l'autonomie de la famille au niveau éthique humaine. Et que cette autonomie de la famille dans l'éthique religieuse prend une dimension nouvelle. Je ne peux pas regarder l'éthique familiale dans la lumière de l'éthique politique. L'éthique familiale a quelque chose de sui generis. Et ce Cependant, cette éthique familiale demande de se prolonger d'un point de vue politique. C'est par la famille que je vois le lien de l'éthique personnelle et de l'éthique politique. Mais la famille s'enracine d'abord et en premier lieu dans l'éthique personnelle. Et là, on voit très bien la grande erreur de Platon qui se retrouve dans toute politique totalitaire. Pour Platon, c'est l'État qui a autorité pour l'éducation. C'est intéressant à ce point de vue-là. C'est intéressant de voir que Platon n'a pas saisi le caractère propre de la famille. Parce qu'il n'a pas saisi le caractère propre de la philia, de l'amour d'amitié. Sa politique repose sur l'individu et non pas la famille. Tandis que, dans une perspective réaliste, la politique repose sur la famille. Et quand je dis que la politique repose sur la famille, je veux montrer que la famille a ses exigences propres qui ne sont pas politiques. Et donc, je dois, au plan philosophique, faire la philosophie de la famille comme une philosophie qui prolonge le point de vue éthique humaine, qui prolonge l'éthique religieuse et qui se structure par elle-même et pour elle-même pour sauvegarder la finalité propre de la personne humaine. Mais cette philosophie de la famille demande de s'achever dans une philosophie politique. Et c'est le point de vue du travail qui fera le joint. Vous voyez, le travail ne peut plus être uniquement dirigé par la famille. Ceci dans le travail intellectuel, la découverte, les découvertes scientifiques, que le travail simple, le travail de l'industrie ou artisanal, ne peut pas être uniquement familial. Il y a un lien avec l'État. La vertu d'obéissance